On va s'intéresser en premier lieu à la loi climat, un texte qui ne comporte ni taxes ni obligations. Mathilde Crevoisier-Crelier, est-ce que c'est légitime d'être satisfait après un oui à une loi aussi peu contraignante ?
C'est légitime parce qu'on a pu craindre ces dernières semaines que le non l'emporte finalement. Il y a une campagne de désinformation qui a été extrêmement massive dans toute la Suisse, avec aussi des informations qui n'étaient pas correctes, hein, qui ont été transmises. Donc il y avait cette crainte que ça ne passe pas, alors que pourtant cette loi climat était vraiment un minimum absolu. On a repris de l'échec de la loi CO2 les aspects qui ne faisaient pas débat pour faire une loi plus petite, plus simple, qui était uniquement incitative, hein, qui visait vraiment à financer le remplacement du chauffage, à financer l'innovation au sein des entreprises. Donc on n'était pas dans un projet de loi très ambitieux, mais par contre, s'il avait été refusé, ça aurait été un signal absolument catastrophique par rapport à la réalité du changement climatique et puis des travaux qui attendent la Suisse, tout comme tous les autres pays, pour faire face à ses conséquences dans les 20 prochaines années.
Mais est-ce que c'est pas un pas trop petit pour se diriger vers la neutralité carbone d'ici 2050 ?
Vous connaissez le processus politique en Suisse, hein, on avance souvent à petits pas, on doit avoir des majorités, on doit faire des compromis. Que cet objet soit déjà passé, c'est déjà une phase. Après, de nombreux autres projets de loi sont en cours actuellement dans le domaine de l'énergie à Berne. Hein, moi, je fais partie de la commission de l'environnement et de l'énergie, donc je peux vous assurer que la loi CO2 est en cours de révision aussi. On vient d'accepter la loi qu'on appelle Windexpress pour les éoliennes, etc. Donc il y a énormément de travaux en cours. Cette loi climat permettait justement d'adopter rapidement certains aspects qui ne faisaient pas débat de la loi sur le CO2, et c'est dans le sens qu'il faut saluer ce pas, même s'il est petit.
En tout cas, chez les opposants à la loi climat, l'ambiance, elle, était glaciale. L'UDC estimait pourtant avoir avancé les bons arguments pour trouver une majorité qui rejette le texte. Sans succès, on écoute le conseiller national au Valaisan, Michael Graber.
On était la seule partie à combattre cette loi. Voilà, on a clairement mobilisé aussi des gens qui normalement votent pas UDC, et puis aussi certains cantons ont dit non. Aussi ma région, le Haut-Valais, a dit non à cette loi. Mais quand même, bien sûr, on est déçus. La loi ne contenait rien de concret, et c'est difficile, si c'est si abstrait, d'expliquer aux gens comment ils sont touchés. Avec la loi sur le CO2, tout le monde savait qu'il doit payer un litre d'essence plus, qu'il doit payer plus en vol, mais la facture, elle va devenir plus tard.
Deuxième objet de ces votations fédérales, l'imposition des multinationales. C'est le oui le plus net, tant au niveau suisse que cantonal, avec respectivement 78,5% au niveau national, 82% de oui dans le canton du Jura. Ce nouvel impôt de 15% pour les entreprises multinationales entrera en vigueur le 1er janvier. À noter qu'une seule commune en Suisse a refusé l'objet, la commune de Randa en Valais. Seul le Parti Socialiste s'opposait à ce nouvel impôt, pas sur le principe, mais en raison de la redistribution des recettes fiscales. Le PS trouve injuste que la majeure partie de l'argent profite à deux cantons, mais ces arguments n'ont pas fait mouche. On écoute Roger Nordmann, conseiller national socialiste.
J'ai un œil qui rit et un œil qui pleure, parce que l'aspect positif, c'est que les entreprises sont taxées au minimum à 15% au niveau international, et l'aspect négatif, c'est la mauvaise répartition à l'intérieur de la Suisse. Mais à cause de cette situation un peu ambiguë, la direction du PS avait proposé la liberté de vote, et finalement c'est le Congrès qui a décidé de faire campagne pour le non. Le résultat montre qu'on ne pouvait pas faire une campagne claire sur un sujet qui avait des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est peut-être aussi une leçon pour nous, on n'a peut-être pas tout fait juste. En fait, il y aura de toute façon un nouveau round quand on ancrera dans la loi la répartition entre les cantons qui est provisoire. Donc si notre crainte se confirme que la répartition est injuste, ce sera l'occasion de corriger.
Mathilde Crevoisier-Crelier, cet objet divisait tout de même au sein de votre parti. Même si la position officielle était contre, il y a des voix plus nuancées. Vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme faisant partie du camp des gagnants ou des perdants ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'on s'adapte à cette réglementation au CDE. Ça permet de garder une masse fiscale importante en Suisse, et ça, je crois que c'était l'objectif principal. Après, c'est évident que la solution qui est sortie au final, à savoir 25% pour la Confédération et 70% des recettes supplémentaires pour les cantons, elle désavantage énormément les cantons à faible potentiel de ressources, les cantons qui accueillent très peu de grandes multinationales, et le canton du Jura en fait évidemment partie. D'ailleurs, le canton qui s'est rallié à la solution défendue par l'ensemble des cantons à la fin avait quand même exprimé aussi des réserves et sa préférence initiale pour la solution dite du 50-50, donc où 50% des recettes allaient à la Confédération et pouvaient être ainsi distribuées beaucoup plus équitablement et sans concurrence fiscale intercantonale à l'ensemble des cantons.
On va passer au dernier objet de ces votations fédérales, la prolongation de la loi Covid jusqu'en juin 2024. Elle a été acceptée par le peuple suisse à 61,9%. Dans le Jura, le oui se monte à 60,7%. Le peuple la valide pour la troisième fois avec un taux d'acceptation assez stable, toujours autour des 60%. Mathilde Crevaux-Écrelier, est-ce que cette fois c'est la bonne ou le peuple devra encore se prononcer sur la loi Covid à l'avenir, selon vous ?
Il faut espérer que ce soit la bonne. On sait entre-temps que l'OMS a déclaré que la fin de l'urgence sanitaire pour le Covid, c'était au début du mois de mai. Si on votait encore une fois sur cette loi, c'est que le référendum a été demandé. En fait, il faut bien penser que le Conseil fédéral était venu l'an dernier avec ce projet pour, comme l'ont bien compris les électeurs et les électrices, éventuellement pouvoir réactiver des mesures et en cas de regain d'épidémie. Maintenant, on voit que le danger semble s'être éloigné et je le salue. C'est évidemment ce troisième référendum qui a fait qu'on devait encore se prononcer une fois, mais elle est devenue, on l'espère, sans objet.
Alors ce référendum, il a été lancé par des opposants aux mesures sanitaires. Seuls l'UDC et la Fédération de l'hôtellerie-restauration Gastro-Suisse appelaient le peuple à refuser cet objet. La réaction du président de Gastro-Suisse, Casimir Platzer.
Gastro-Suisse avait décidé un non. Pourquoi ? Parce que cette prolongation de la loi Covid donne la possibilité d'introduire à nouveau le certificat de vaccination. Et on est clairement d'avis que ça ne se justifie pas aujourd'hui. On aurait accepté que le certificat de vaccination, le certificat Covid, soit utilisé pour des voyages internationaux, mais pas pour l'utilisation en Suisse.
Et si on s'intéresse désormais au taux de participation lors de ces votations fédérales, il est autour des 42,5% au niveau national, 30% dans le Jura. C'est l'un des scores les plus faibles de ces dernières années où on dépassait régulièrement les 50 voire 60%. Comment est-ce que vous expliquez cette baisse, Mathilde Crevaux-Écrelier ?
C'est malheureusement une baisse qu'on constate de manière récurrente. Je pense qu'il y a un vrai défi pour la démocratie de voir que plus qu'un tiers de l'électorat se rend aux urnes. C'est assez difficile à expliquer, à donner des raisons. On sait que les jeunes, notamment, ne se sentent plus très en phase avec les objets qui sont proposés. Ils ont aussi des sources d'informations qui sont devenues différentes. La presse écrite, par exemple, n'est pas tellement lue par les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un défi actuel des médias et des politiques de réussir à remobiliser cet électorat, à faire comprendre l'importance de participer et de décider ainsi à la progression démocratique d'un pays. Mais je crois que c'est vraiment, à mon avis, un des défis de ce siècle.
Voilà qui conclut ce volet consacré aux votations fédérales. Mathilde Crevaux-Écrelier, vous êtes conseillère aux États socialistes. Merci d'avoir été avec nous pour commenter ces résultats. Très belle soirée.
Merci à vous.